Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengirma.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les dimanches dans C'est ça la France, l'émission qui aime le savoir-faire français, qui aime mettre en avant les talents français. Au programme du jour, dans notre France qui innove, vous découvrirez tout à l'heure une entreprise qui a eu l'idée géniale de proposer des meubles de grande qualité fabriqués avec les déchets industriels, une belle initiative d'économie circulaire. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir une entreprise patrimoniale dont on peut être très fier, qui participe grandement au rayonnement de la France à l'international. Allez, quelques indices. Main sur le buzzer, elle est située en Lorraine. Son savoir-faire est inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. Cette manufacture est spécialisée dans la faïencerie et chaque année, on y perpétue la tradition des œufs de Pâques. Il s'agit bien évidemment des émaux de Longwy et c'est notre entreprise patrimoniale du jour.
Sud Radio, c'est ça la France, le patrimoine du Made in France.
Et pour en parler, je suis ravie de recevoir en studio Martin Pietri, celui qui est à la tête de cette belle maison. Bonjour.
Bonjour Nathalie.
Alors racontez-nous, de manière concise bien évidemment, l'histoire de cette maison qui date de 1798, qui a plus de deux siècles d'existence.
Oui, en fait c'est une histoire qui est assez simple à résumer. C'est d'abord la création effectivement à la fin du 18e siècle, dans une région où il y avait tout pour faire de la faïence et de la céramique. Il y avait des forêts pour alimenter les poêles, il y avait
première,
la matière première,
le sable,
etc. Et puis pendant les 100 premières années de sa vie, c'est une faïencerie comme les autres qui fait du service de table, parfois pour des clients prestigieux, notamment pour Napoléon. Et au tournant de la fin du 19e siècle, cette faïencerie est confronté à une concurrence, c'est déjà une histoire de la mondialisation.
Asiatique, j'imagine.
De l'engouement, poterie, en fait, pour les produits asiatiques ou de style asiatique. Et donc, les propriétaires actuels de l'époque, les barons d'Huart, ont essayé de trouver une réponse artistique. Et ils ont importé, en fait, une technique de l'émail cerné en 1870. Et c'est à partir de là que de faïencerie tout à fait classique, on est devenu une faïencerie exceptionnelle avec cette technique des émaux cernés que nous sommes les seuls aujourd'hui à perpétuer.
Alors c'est quoi exactement les émaux cernés ?
En fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un biscuit, c'est-à-dire une base de faïence neutre sur laquelle on va appliquer un décor. D'abord, c'est, pour le résumer, ce que je dis souvent, c'est comme Tintin. On commence en fait par apposer le motif, la ligne claire extérieure, le trait noir, et ensuite on va remplir à la main avec les couleurs. Ces couleurs-là, c'est d'abord de la poudre de cristal à 90%, à laquelle on ajoute de l'oxyde métallique qui va donner de la couleur, et cette couleur qui est neutre quand elle est crue va se révéler au moment de la cuisson et va devenir éclatante.
Alors on n'a vraiment que des objets d'art peints à la main, des pièces uniques, mais à l'origine, cette maison fabriquait des pièces assez classiques. Et aujourd'hui, ça fait maintenant plusieurs années, vous êtes connu pour des pièces très originales, beaucoup de collaborations avec des designers. Et les fameux œufs, ces œufs que l'on retrouve à Pâques, il n'y a que vous qui les faites finalement. Ces œufs Fabergé, qui sont inspirés des œufs Fabergé.
Oui, c'est sûr que c'est le thème de celui de cette année qui était l'œuf Fabergé, en plus avec des petites abeilles, un clin d'œil aux 250 ans de la naissance de Napoléon. Mais c'est vrai que ce côté exceptionnel, ce jeu des couleurs avec des matériaux précieux aussi, puisqu'on utilise l'or et le platine, c'est des choses qui se sont accentuées au cours des dernières années, tout comme les partenariats avec les designers, même si je dois être honnête et dire que ces partenariats avec des designers extérieurs, ça a toujours été dans la culture de la maison, mais à chaque fois, on collabore avec ceux du moment. Voilà,
et donc aujourd'hui, et c'est ce qui a permis à cette maison de traverser les révolutions, les guerres, les crises économiques.
C'est sûr qu'elle n'a pas vraiment été épargnée, parce qu'on est en Lorraine, à la frontière, pas loin de l'Allemagne, du Luxembourg, même de la Belgique. Donc on a été un lieu de passage d'invasion dans un sens comme dans l'autre. Donc on a connu beaucoup de vicissitudes dans notre histoire, mais à chaque fois, on s'est relevé avec toujours cette passion, en fait, pour ce métier et pour ces pièces d'exception.
Alors justement, en parlant de collaboration, vous avez vraiment su bien développer aussi cette partie-là de l'entreprise. Vous avez fait rentrer des designers très étonnants, un petit peu, on va dire, presque à l'opposé de la tradition. Donc ça permet d'avoir des collections assez pop, assez originales.
C'est certain que quand on a repris la maison il y a 3 ans, un des objectifs, c'était de l'ancrer en fait dans notre actualité, dans notre monde d'aujourd'hui. Donc, c'était de travailler avec les designers et les artistes d'aujourd'hui. Donc, c'était travailler, par exemple, avec Vincent Daré, qui nous a fait une boule complètement baroque dans son style. Mais c'était aussi travailler avec des jeunes graffeurs comme... Opéra et Taoré, qui étaient des graffeurs qui nous ont fait des boules très fortes, des pièces très fortes. C'est travailler en ce moment avec José Lévy, qui est un designer très connu, ou avoir collaboré vraiment avec une artiste de renom international, qui est Françoise Petrovitch. Donc vraiment, c'est travailler avec ce qui se fait de mieux et de plus pointu dans la création contemporaine.
Alors, je voudrais revenir aussi sur votre parcours, à vous, Martin Pietri. Donc, cette entreprise, quand elle a été reprise, elle a été renommée, déjà. Il a fallu donc refaire ressortir le côté manufacture, des émaux de Longwy, 1798, rappeler sûrement, j'imagine, le côté patrimonial de la maison, puisque je crois qu'elle s'appelait la Société de la faïencerie et des émaux de Longwy. Et le terme manufacture, effectivement, ça parle tout de suite, hein, ça rappelle le savoir-faire manuel. Alors, vous êtes également à la tête de la Société Taillarda, donc qui crée des meubles et des sièges de prestige. Donc, le Made in France, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, vous avez les Made in France chevillés au corps.
Exactement, ça c'est viscéral. C'est effectivement, bon, on a renommé parce qu'il fallait réancrer en fait la manufacture dans son histoire. Manufacture parce qu'on produit. Aujourd'hui, il y a tellement de maisons qui se revendiquent de fabrication française et qui font fabriquer ailleurs qu'il faut vraiment revendiquer notre production. Et je suis très fier de ça parce qu'on a très peu de sous-traitants. C'est tout est fait entre guillemets à la maison. Et puis 1798 parce que c'est notre histoire. Et puis effectivement, le projet que je mène et qui dépasse en fait la manufacture des émaux de Longwy, c'est un projet qui fédère des énergies. Parce que j'ai la chance d'être soutenue par des investisseurs pour favoriser et développer des pépites françaises dans le domaine des savoir-faire liés à la décoration et à l'aménagement intérieur. Et c'est le cas avec les émaux de Longwy et c'est le cas également avec la maison Taillarda.
Donc c'est cette volonté de montrer que le savoir-faire, il est local, il est important qu'il reste en France et d'ailleurs il n'est pas délocalisable.
C'est exactement ça. La force des métiers d'art français, c'est qu'ils ne sont pas délocalisables. Hein. C'est-à-dire que si on les transporte ailleurs, eh ben, ils n'auront plus du tout la même valeur, authenticité, le même savoir-faire qui est local. Ce qu'on dit souvent, et ce que je répète souvent, c'est que c'est notre Silicon Valley à nous, c'est-à-dire un écosystème très spécifique qui n'est pas délocalisable ou réplicable ailleurs. Eh ben, il est temps de prendre conscience que les métiers d'art, pour la France, c'est exactement ça.
Ouais, ce sont des beaux ambassadeurs. Et en plus, il y a un vrai savoir-faire derrière. Et il y a des débouchés économiques. Alors, en parlant de débouchés, vous dites souvent que l'avenir va passer aussi par l'export. Vous voulez dire que les débouchés en France sur le marché français sont plus compliqués ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché français, qui reste important notamment pour les émaux de Longwy, ne suffit pas à les faire vivre. C'est-à-dire que voilà, on a eu des changements des habitudes de consommation, des changements même de réseau de distribution. Même si je constate qu'il y a un retour même sur des générations X ou Y pour des produits de qualité et des pièces d'exception. Mais voilà, l'avenir, c'est l'export, c'est le développement international pour des maisons comme les nôtres.
Quel pays, par exemple, vous visez ? Les États-Unis ?
Les États-Unis, très certainement, mais par exemple, à chaque fois qu'on les montre en Russie...
L'œuf Fabergé qui vient de Russie aussi.
Ça plaît beaucoup. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, la Chine, l'Asie s'intéresse à nous, et non pas pour des pièces traditionnelles, mais plutôt pour des pièces ultra-contemporaines.
Alors, quels sont aujourd'hui encore les produits phares, ceux qui suscitent le plus d'intérêt de la maison Longwy ?
Alors, d'abord, on a notre pièce iconique qui est cette forme qu'on appelle la boule coloniale, qui est vraiment, moi je dis toujours, c'est notre carré Hermès, hein, c'est ce qui nous permet de nous identifier, et puis et qui est notre produit d'exception en série limitée. Et puis à l'autre bout de la chaîne, il y a notre pot à bougie, qui est aussi un de nos ambassadeurs, parce que en fait, il contient tout l'ADN de la maison. Dans un prix, en tout cas dans une gamme qui est beaucoup plus accessible. Et entre ça, nous avons toute une série de pièces qui aujourd'hui marchent très bien. J'ai remis au goût du jour notre petite chouette qui est notamment sur le bureau de Madame Macron à l'Élysée, mais qui est partout dans le monde. On trouve David Poche, Et ce qui revient beaucoup, c'est le luminaire, en fait. C'est la lampe à poser, parce que finalement, il y a une offre qui est très restreinte aujourd'hui, de très belles lampes lampes qui servent en même temps de décoration avec une fonction. Et ça, c'est ce qu'on développe aussi beaucoup, notamment avec les décorateurs.
Vous en parlez avec beaucoup de passion. Puis vous êtes jeune, donc ça fait plaisir de voir des jeunes patrons comme ça reprendre de belles maisons bicentenaires.
En fait, je ne suis pas si jeune que ça, mais c'est la passion qui me maintient jeune.
Voilà. C'est ça, c'est les émaux de l'ennui, c'est la faïencerie. En fait, il faudrait tous travailler dans la faïencerie.
Il faudrait déjà tous avoir un émo chez soi. Voilà.
C'est vrai, c'est
ça
pas mal
ça. Par là.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Martin Pietri, à la tête de la manufacture des émaux de Longwy.
1798.
Entreprise du label, entreprise du patrimoine vivant, bien évidemment. La maison Taillarda également.
Oui.
Voilà, donc que des belles entreprises patrimoniales qui nous font du bien et dont on est fiers de parler ici à Sud Radio. Allez, à tout de suite pour découvrir notre France Kin.
Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengirma.
Bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui met en avant les talents français, ainsi que les entreprises patrimoniales d'exception. Ces entreprises qui traversent, on le disait à l'instant, les guerres, les révolutions, les crises économiques, qui sont centenaires, bicentenaires. Et on aime mettre également en avant cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui fait preuve d'ingéniosité, de créativité pour se démarquer. Donc il est temps de découvrir notre entreprise qui innove. Il s'agit du collectif Maximum, qui fabrique des meubles à base de déchets industriels. C'est ce qu'on appelle le design responsable.
Sud Radio, c'est ça la France qui innove et la French Tech.
Bonjour Armand Bernou.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de la start-up Maximum. Donc c'est une start-up qui est installée à Ivry-sur-Seine. Alors vous êtes parti d'un constat. On dépose chaque jour des tonnes de déchets qui sont rejetés par les entreprises. D'ailleurs, vous avez ces chiffres-là. On peut estimer à combien ces tonnes de déchets?
Nous, on travaille plus spécifiquement avec le déchet industriel. Ouais. Le déchet industriel, c'est 16 millions de tonnes par an. Et surtout, le chiffre le plus parlant, c'est que quand un industriel admet au début de sa ligne de production 100 kilos de matière, il va sortir donc, du coup, 70 kilos de produits et 30 kilos de déchets. Donc un tiers de la matière première qu'il ingère est relâchée sous forme de déchets. Donc nous, c'est ce gisement-là qu'on a voulu traiter. Et travailler à travers notre concept et notre entreprise.
Bon, il y a urgence, quoi. Vous avez dit il y a urgence. Il faut relever le plus gros défi de notre siècle, c'est-à-dire le défi environnemental. Il est temps de changer nos habitudes. Il faut plus être dans l'économie circulaire.
Bah oui, il y a urgence et surtout il y a opportunité, puisque quand on voit que les ressources de la terre s'amenuisent, qu'on a de moins en moins de métal, moins en moins de bois, moins en moins de... Et qu'en fait, de l'autre côté, il y a un tiers de tout ce qu'on extrait qui part aux déchets. Et ben, on se dit, c'est une vraie mine à ciel ouvert, en fait, les décharges. Et c'est d'autant plus intéressant avec le déchet industriel qu'en fait, la matière a traversé la ligne de production de l'industriel avant d'arriver à la benne. Et donc, l'industriel a transformé la matière, a travaillé la matière, et donc lui a donné beaucoup de valeur ajoutée. Il lui a donné une forme, il lui a donné des caractéristiques techniques. Et c'est là-dessus.
Par exemple, une résistance au UV. Ou...
Voilà,
donc, tout ça. Vous, quand vous récupérez la matière première, même en déchet, elle a encore toutes ses qualités.
C'est ça. Nous, ce qu'on récupère, en fait, ce n'est pas des lingots de métal, par exemple. On fait une table qui est en échafaudage hors d'usage. Bon, on récupère quasiment notre table en pièces détachées. Après, il faut la retravailler, évidemment. Et faire passer l'échafaudage de table, quoi. Mais y a tout un système technique de fixation de l'échafaudage qui est récupéré. Tout un travail qui nous permet, en fait, nous, de produire en série rapidement, à coût, du coup, le plus bas possible pour pouvoir revaloriser un plus gros volume de déchets possible.
Mais en termes de déchets, donc il y a le plastique, certes, mais il y a d'autres matériaux, le carbone, il y a quoi d'autre comme matériaux que vous pouvez récupérer?
Nous, en fait, on peut récupérer tout et n'importe quoi, ça dépend de ce qu'on trouve chez l'industriel. La seule contrainte pour nous, enfin la seule exigence qu'on ait, c'est que le déchet soit inhérent à une activité et donc qu'il ait une récurrence. Il faut que tous les jours, l'industriel fabrique d'un côté un produit, de l'autre côté un déchet, et ce, toujours le même déchet. Du coup, nous, quand on dessine un meuble et qu'on le lance sur le marché, on sait que dans 10 ans, on sera encore capable de le fabriquer. Et puis, on peut passer beaucoup de temps pour essayer de trouver le design le plus pertinent possible pour pouvoir offrir une solution de revalorisation qui corresponde vraiment à ce déchet et puis qui soit sur le long terme.
Alors, quand on parle de déchets, j'imagine que ces déchets sont trier, analyser, parce que sans vouloir incriminer qui que ce soit, on ne sait jamais trop ce qui est mis dans ces déchets quand on les récupère auprès des industriels. Donc vous, vous avez une équipe qui s'occupe justement d'analyser tout ça, et vous avez une équipe design après qui va penser à la nouvelle forme du produit derrière.
Voilà, c'est ça. D'abord, on va voir les industriels. On analyse les flux de déchets qui sont présents dans leur activité. On les échantillonne, on les référence, et c'est ça qui sert de base à la création de nouveaux produits.
Ça a été compliqué de mettre en place tous ces partenariats avec les entreprises ?
Au début, c'est vrai qu'au début, c'était beaucoup au bon vouloir de l'industriel, et c'était des relations très humaines, ça l'est toujours d'ailleurs, puisque dans les premiers temps, on n'était pas capable d'apporter une vraie solution de revalorisation, en tout cas quantitativement, quoi. Donc on offrait évidemment de la com, puisque c'est très facile pour l'industriel après de communiquer autour de son engagement écologique.
Hein, ouais.
C'est beaucoup plus facile de montrer la photo d'un meuble qui est fait avec ses déchets que de parler d'un plan d'action. C'est plus parlant, quoi. Mais donc c'était vraiment des relations, ils nous rendaient service, et puis maintenant au fur et à mesure ils se rendent compte que nous on peut en fait leur offrir une vraie solution, on est capable de gérer du volume et puis
vous gérez leurs déchets aussi, pour eux c'est inestimable ça aussi finalement.
Voilà, après souvent ils ont une solution de gestion du déchet, mais qui n'est pas forcément, enfin ils ont même tout le temps une solution de gestion du déchet, mais on prend l'exemple, par exemple, on a fait une étagère en partenariat avec Airbus qui récupère les planchers de l'avion A350, donc qui sont des planches de carbone, et qui lors de la ligne d'assemblage, il y en a toujours une partie qui est évincée de la production, qui est mise de côté parce qu'il peut y avoir une petite rayure et que le client est là pour vérifier que tout est parfaitement nickel, et étant donné le prix de l'avion, ils peuvent pas se permettre d'avoir même une seule rayure sur le plancher. Bon, du coup, ils en évincent un certain nombre. Évidemment, c'est une petite quantité, ouais, par avion, sauf qu'ils font tellement d'avions que nous, ça nous permet de faire une assez grosse production. Et c'est...
Donc, au lieu de se retrouver, j'imagine, enfoui sous la terre...
Voilà, c'est ça. C'était enfoui, puisque c'est, ouais, du carbone. Et le carbone, ça ne se recycle pas. Donc, ils avaient une solution qui était de l'enfouir, et nous, on apporte une autre solution qui est plutôt de préserver cette matière, qui est en plus extrêmement qualitative. C'est du carbone, c'est très léger, très résistant. C'est rare de voir un meuble dans ce matériau-là, puisqu'en fait, c'est presque trop qualitatif pour un meuble. Et
en fait, c'est une ressource infinie quasiment de matières premières. Et ce qui est incroyable, c'est que vous avez aussi été capable de montrer qu'on peut faire un business rentable et co-responsable.
C'est vraiment ce qu'on voulait faire. On ne voulait pas faire une association. On tenait à ce que ce soit une entreprise. On hésite même à prendre le statut ESS, puisqu'on veut vraiment prouver qu'il est possible d'avoir une activité qui améliore la condition écologique de l'industrie ou de n'importe quel secteur, et qui pourtant permet, comme toutes les autres entreprises, de vivre et de gagner de l'argent, quoi.
Et votre produit phare, c'est notamment ce fauteuil, là, cette chaise très design, qui a été notamment commandée par le Palais de Tokyo. Il y a eu quoi, une cinquantaine de chaises commandées ?
Oui, c'est un fauteuil qui est fait en partenariat avec H. Schulman, j'en profite pour le citer.
Mais vous avez bien raison.
Qui est un fabricant de poudre de plastique coloré, et quand il passe d'une couleur à l'autre dans sa production, il y a une petite partie des poudres de l'ancienne couleur qui vont se retrouver, qui étaient encore présentes dans les circuits.
Donc il y a un mélange assez intéressant.
Voilà, c'est ça.
Assez
du coup,
original.
Il ne peut pas les vendre, et nous, on fait des fauteuils avec, on fait fondre le plastique et on fabrique les fauteuils en dégradé de couleur.
Merci beaucoup Armand Bernoux, cofondateur de la start-up Maximum, qui révolutionne les meubles design en proposant des meubles 100% durables. Encore un grand merci.
Merci.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibault le French Trotter.
Bonjour Thibault.
Bonjour Nathalie.
Alors avec vous, comme promis, on retourne au salon du running dont vous avez commencé à nous parler la semaine dernière.
Ouais, mais juste avant, je voudrais vous rappeler quelques chiffres. J'ai appris qu'il y a près de 14 millions de Français qui pratiquent la course à pied, et parmi eux, il y a un gros tiers qui s'adonne au running de manière régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine.
Et je crois d'ailleurs qu'il y a une forte féminisation dans la pratique de ces dernières années.
Ouais, exact. Il y a à peu près autant d'hommes que de femmes qui courent aujourd'hui. Et tout ça représente bien évidemment un business en or. C'est un marché à 850 millions d'euros à peu près, avec l'achat des chaussures, des t-shirts, des shorts, des montres connectées. En fait, la liste des équipements est super longue. Et chaque année, au salon du running, il y a de nouvelles innovations, comme par exemple ce matelas qui a été conçu pour favoriser la récupération des sportifs. Je vous laisse écouter.
Le matelas 365, c'est une start-up qui a un peu plus d'un an, qui a été développée par trois associés qui sont experts de la literie depuis plus de 20 ans. Et en fait, la spécificité du matelas 365, c'est qu'on a une technologie, donc effectivement brevetée, qui permet de monter le matelas en température, ce qui va aider à la récupération, donc notamment du sportif. Ça va permettre de faciliter la décontraction musculaire et du coup, favoriser l'endormissement.
Donc, c'est une innovation française ?
C'est une innovation française, effectivement.
Vous êtes les seuls à faire ça ?
Et on est les seuls à avoir cette technologie et à faire ça, oui. L'intérêt de cette technologie, c'est que, donc, mis à part ce réel plus en termes de confort, c'est qu'on va pouvoir aussi monter la température de façon jusqu'à 55 degrés et on va pouvoir assainir vraiment la literie en profondeur et éliminer tous les acariens et les principales bactéries. En sachant que quand on dort, on perd l'équivalent d'une canette de soda. D'humidité, de transpiration, hein, c'est pas forcément très, très glamour, mais c'est le cas. Là, le fait de pouvoir augmenter la température, ça va assécher la literie et assainir la literie. Donc vraiment, vous avez un matelas tip-top, tout propre, 365 jours par an et nuits par an.
D'où le nom, 365. Il y a une chose intéressante aussi, c'est que la fabrication est respectueuse de l'environnement.
La fabrication respectueuse de l'environnement, alors on n'a pas de traitement chimique. Souvent dans la literie, vous avez des produits qui ont un traitement contre les acariens, justement contre les bactéries. Nous, grâce à cette technologie, on n'en a pas besoin. Et l'ensemble des matériaux possède les certifications Ocotex et GOTS, donc pour vraiment des produits sains.
Non mais c'est le rêve, un matelas comme celui-ci.
Oui.
Alors je suis sûre que ça peut intéresser ceux qui ne pratiquent pas du tout la course à pied. Allez, une toute dernière entreprise, Thibaut.
Allez, une dernière. Vous savez que dans la panoplie du parfait coureur, il y a un élément qui est indispensable, c'est la chaussette. Et ça tombe bien, parce que je suis passé par le stand de l'un des derniers fabricants de chaussettes made in France.
Alors la chaussette de France appartient à la société Tismine. Nous sommes l'un des derniers fabricants de chaussettes en France. Nous sommes basés à Troyes. Et donc la chaussette de France, nous l'avons lancée il y a 6 ans. Et donc la particularité des chaussettes de France, c'est que nous utilisons des métiers à tricoter dernière génération qui nous permet de faire des chaussettes très précises, très fines, avec une fine bouclette. Associé à cela, nous utilisons des fils très nobles, très vertueux pour le pied, comme du Drytex, du Friction Free, de la biocéramique. Et associé à ça, nous avons une communication plutôt rigolote et un peu décalée, qui fait le succès de notre marque depuis 6 ans. Et on connaît une croissance de 30 à 40% chaque année. Et nous défendons le Made in France, nos emplois et notre savoir-faire.
Il faut une gamme de chaussettes destinées au running. Vous nous en parlez un petit peu ?
Donc ce sont des chaussettes très précises qui permettent en fait aux runners d'éviter les échauffements. C'est des chaussettes qui évacuent très bien la transpiration. Le tout, c'est que pour bien courir, il faut une bonne paire de chaussures et une bonne paire de chaussettes. Voilà.
Merci beaucoup Thibaut. Alors, c'est quoi votre prochaine compétition, vous qui courez sans cesse ?
un petit semi-marathon, en attendant un marathon un peu plus tard.
Merci beaucoup Thibaut. Et merci également à vous, chers auditeurs, de nous être fidèles chaque semaine. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de C'est ça la France. Et pour les retardataires ou les nostalgiques, vous pouvez retrouver l'émission sur sudradio.fr, le podcast de l'émission, bien évidemment. À la semaine prochaine.
Sud Radio, C'est ça la France.